Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch, le podcast où on couvre toutes les séries Marvel et parfois un petit peu plus et d'autres choses. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir, comme d'habitude, enfin de recevoir, c'est même pas que je reçois, c'est qu'il est chez lui ici, c'est Johan. On vit un petit peu en couple podcastique pour cette émission. Comment ça va, Johan?
Ça va super bien, ça va bien. Voilà, il y a un très gros film qui vient de se passer, on peut... maintenant, regardez vers ce qui va arriver, mais avant, on va en parler.
Ouais, on peut. En fait, on l'a vu tous les deux, c'est bien. Et donc, maintenant, on peut naviguer sur Internet sans crainte de se faire tout spoiler. Ouais.
On peut même spoiler les autres, ouais, tu vois.
Alors, on va faire une partie sans spoiler d'abord, et puis ensuite, bien sûr, notre partie avec spoiler. La partie sans spoiler va être assez courte, je pense, mais il faut avouer que c'était difficile de ne pas se faire spoiler un minimum le film, parce que ils ont un petit peu abandonné l'idée de cacher le twist, mais enfin le thème du truc, et on a sur toutes les affiches un des éléments importants de ce qui se passe dans le film. Donc bon, mais on va quand même faire une première partie sans spoiler, et puis ensuite on parlera avec spoiler, évidemment. Donc, Spider-Man No Way Home, tu l'as vu en français, je crois, n'est-ce pas?
Alors voilà, moi j'ai pas vu Spider-Man No Way Home, j'ai vu L'Homme Araignée, pas de moyen de rentrer chez soi.
Qu'au Canada, ils doivent traduire un petit peu comme ça parce qu'ils sont obligés de traduire
je crois
à peu
pas,
près tout.
Ça dépend. Il y a des fois, ils traduisent, des fois non quand même. Mais ouais.
C'est vrai. Donc, L'Homme Araignée, pas moyen de rentrer chez soi. Moi, je l'ai vu hier soir. Donc, c'est vraiment frais. Ça fait une douzaine d'heures. Donc, mes impressions sont encore très, très fraîches. Toi, tu l'as vu. Ça a pu se reposer un petit peu. Tu l'as vu le jour de la sortie. Donc, mercredi. Aujourd'hui, on enregistre vendredi.
C'est ça.
Et du coup, on va commencer donc sans spoiler. Peut-être, on ne s'est pas du tout parlé avant. On s'est lancé dans l'enregistrement immédiatement pour pas du tout se spoiler nous-mêmes, au moins pour avoir les impressions Primeur. Fraîches. Est-ce que tu peux me dire, sans spoiler donc, ce que tu as pensé du film?
J'ai pensé que c'était très compliqué. Il y a plusieurs choses un peu conflictuel d'un point de vue ressenti pour moi, mais ce que j'en retire globalement, c'est que j'ai trouvé ça pas très très bien, quoi.
D'accord. Qu'est-ce que tu penses que moi j'en ai pensé?
Je pense que t'as pas trouvé ça très bien non plus.
Ah oui, c'est vrai? Ah, intéressant. Je suis curieux de savoir pourquoi, on en parlera peut-être un petit peu dans la partie spoiler, mais tu vois, comme un vieux couple qui se connaît bien, t'as assez raison, j'ai pas trouvé ça très bien, voire pas très bien du tout. En fait, j'hésite entre est-ce que c'est juste mauvais et est-ce que c'est vraiment très très mauvais. Tu vois, je suis un petit peu entre les deux, je suis pas encore sûr, et... Donc, sans spoiler, la raison pour laquelle j'ai pas aimé, j'ai l'impression qu'on est un peu... on va être les moutons noirs du monde des films de super-héros, parce que j'ai l'impression que le monde entier a beaucoup aimé, et certains ont absolument adoré. J'ai entendu des reviews de gens qui disent que c'est peut-être le meilleur film de super-héros qu'ils aient jamais vu, qui le mettent devant, je sais pas, des trucs comme Endgame et ce genre de choses. Et moi, je suis, mais alors vraiment pas du tout d'accord, et on pourra expliquer pourquoi dans la partie avec spoiler, mais ce que je dirais ici, c'est que j'ai l'impression que c'est un film qui, contrairement à la plupart des films du MCU qui réussissent à combiner fanservice, intérêt des comics et intérêt de faire avancer l'histoire et puis intérêt de faire beaucoup d'argent, celui-là, sa première préoccupation, c'est de satisfaire aux besoins et aux exigences des deux sociétés, Disney, enfin Marvel et Sony. Et c'est un film qui est fait pour fonctionner avec la situation très compliquée dans laquelle ils sont légalement, plutôt que pour faire le film Spider-Man que, on va dire le nom de Kevin Feige, mais pour personnifier un petit peu cette, ce type de, d'intention dans les films, que le film que Kevin Feige aurait voulu faire. Et donc, je trouve qu'on retombe dans des travers vraiment que j'aime pas du tout, des travers qu'on avait, qu'on a encore d'ailleurs dans les films Sony, là où les films du MCU avaient réussi à être assez immunisés contre ce genre de problème. Alors pas complètement peut-être, mais de manière assez notable par rapport aux deux premiers de la trilogie. Est-ce que tu peux détailler un petit peu, là encore toujours sans spoiler, pourquoi toi il t'a,
ouais, alors,
il t'a pas plu ?
Je suis un peu en phase avec ça, donc pour moi en fait, il y a deux gros problèmes pour moi dans ce film. Le premier, c'est la réalisation de Watt, que je trouve insipide, vraiment, il filme les choses en fait... voilà, je trouve qu'il n'y a rien qui ressort en fait d'un point de vue réalisation, et du coup... bon, il y a des références à d'autres choses, mais ces références-là, elles sont des pures références, et la réalisation de Watt ne vient pas améliorer les choses ou ne vient pas donner un angle dessus. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, bah, c'est ça, c'est l'utilisation de leviers, on va dire, émotionnels. Tu sais, que j'ai lu ça d'un ami ce matin, c'est un peu comme du sucre, tu sais, des bonbons, quoi, des sucres industriels, c'est-à-dire que toi, tu vas le manger et forcément, t'as pas le choix, ça va venir titiller des récepteurs de plaisir dans ton cerveau, c'est à ton encontre. Mais en soi, c'est pas de la bonne cuisine, c'est pas quelque chose d'élaboré, c'est fabriqué pour aller venir justement titiller ses récepteurs et rien d'autre. Et voilà. Donc alors par contre, par-dessus ça, je sauverais quand même quelque chose, c'est que on sent que les gens impliqués ont mis du cœur là-dedans, quoi. C'est-à-dire que ça sera plus facile d'en parler un peu plus tard, mais voilà, on sait qu'il y a différents acteurs qui sont là, et on sent que, enfin, et je pense que c'est la réalité, quoi. Ces films représentent des choses pour eux, des moments de leur vie, etc. Et on sent qu'il y a du cœur en fait dans certains aspects de ce film qui arrivent quand même à transparaître. Mais pour moi, c'est vraiment pas suffisant pour que je passe un pur bon moment, quoi. J'ai pas passé un mauvais moment non plus, mais bon, j'en ressors un peu. Voilà.
Moi, je dirais que j'ai pas non plus passé un mauvais moment, mais j'ai passé un moment où j'étais un peu en train de... J'ai trouvé en fait assez malaisant une partie du film. Et donc, j'étais un petit peu avec un peu figé. Ouais. Et c'est bizarre parce que je peux pas dire objectivement que c'était un très mauvais moment, mais pour reprendre l'analogie du sucre industriel, j'ai trouvé que c'était énormément de fanservice froid. Je vais reprendre cette analogie. En fait, une année, et je suis désolé si je parle encore d'Arcane, mais une année où on a eu Arcane qui a élevé le niveau au niveau de... Alors, ce n'est pas une adaptation de jeu vidéo, Spider-Man, mais quand on parle de fanservice, en fait, dans un truc comme Arcane, la série Netflix sur le jeu League of Legends, ils ont zéro fanservice dans le film, enfin, dans la série. Ce n'est pas qu'ils en ont zéro, c'est que la priorité, c'est la série. Et j'ai vu, il y a une semaine ou deux, le film Mortal Kombat. Et Mortal Kombat, j'en avais entendu parler, et certains m'avaient dit « Ah mais non, il est quand même assez sympa, il est surprenant, il est bien fait. Tu vois, c'est pas le meilleur film de l'année, mais c'est une bonne adaptation de jeu vidéo. » Le récent, hein, qui est sorti cette année ou l'année dernière. Et Mortal Kombat, c'est le niveau zéro du jeu vidéo, de l'adaptation de jeu vidéo. En fait, c'est vraiment pour cette question de fanservice, c'est le fanservice le plus basique et le plus ridicule que tu puisses imaginer. C'est-à-dire qu'il y a des trucs du genre, tous les trucs pour les gens qui connaissent le jeu Mortal Kombat, à un moment, il se sent forcé de dire « Flawless victory, finish him !» Tu vois, il y a la scène où il dit « Finish him », la scène où il fait... Enfin, tu vois, c'est les scènes où ils font un truc du jeu et où tu te dis « Ah ouais, il a fait le truc du jeu, ah c'est trop cool !» Et ça tombe complètement à plat, au-delà du petit plaisir de fanservice qui n'a aucune profondeur, en fait. C'est complètement surface. Et comme le bonbon industriel de ton ami, tu le reçois, ça te fait « Ah, oh, c'est super sympa !» Sauf qu'en fait, le reste est mal fait, ça tient nulle part, il n'y a pas d'échafaudage du film. Et au final, une fois que ça s'est passé, et déjà, ça s'est très mal fait aussi dans Mortal Kombat, qui est un petit peu le niveau zéro, donc je prends, tu vois, entre une échelle Arcane et Mortal Kombat, il y a tout un panel. Et je prends ces exemples pour bien amplifier mon propos, mais... Mortal Kombat, c'est vraiment le niveau zéro, et donc il t'en reste rien. Et même si on parle pas d'adaptation de jeux vidéo, là, on parle vraiment de fanservice. Et No Way Home, c'est un truc où ils mettent le fanservice en avant au détriment d'absolument tout le reste. Et peut-être que c'est, ils sont tombés dans cette formule parce qu'ils avaient certains objectifs, certains impératifs... légaux et pour leur accord entre les deux sociétés. Et donc, ils sont tombés dans cette situation et ils se sont dit « Bon, bah du coup, on va faire ça comme ça et comme ça et comme ça. » Et donc, ça va fonctionner. Et en plus, ça va être sympa pour les fans. Mais pour moi, ça ne fonctionne pas du tout, du tout. C'est assez... c'est vraiment toute la subtilité. Tout en fait, dans le MCU... Les trucs tiennent. Alors, tu as un petit peu de conneries de temps en temps. Il faut accepter que c'est des trucs de super-héros. Mais tout tient, tout est solide, tout est crédible. Là, ils abandonnent tout ça. Ou presque. Je veux pas dire que c'est le pire film de super-héros que j'ai vu de ma vie. C'est pas à ce point-là. Mais c'est une telle chute par rapport au Spider-Man précédent et au MCU, au niveau du MCU en général, que j'ai été... hyper déçu, quoi.
Je suis un peu d'accord. Alors, tu vois, moi, quand même, quand je suis sorti, immédiatement, j'ai dit, bon, c'était pas... Je dirais pas que c'était un échec, mais bon, c'était pas terrible. Tu vois, enfin, vraiment, j'étais un peu sur un truc. Mais plus j'y pense et plus le temps passe, en fait, et plus, justement, bah, les effets de ce sucre industriel disparaissent, et plus je me rends compte qu'il n'y a pas grand-chose derrière, quoi. Donc c'est vrai que même si j'étais pas ravi au début, bah, je suis quand même de moins en moins machin. Ouais. Et finalement, je dirais ça sans spoiler, mais ce que j'ai le plus aimé dans cette séance, c'est une des scènes post-générique. Et voilà, c'est un peu triste, mais bon.
Mais bon, bah, écoute, on va en parler dans une minute. Je voudrais juste dire un dernier truc. Pour moi. Le MCU est un petit peu en train de risquer de comment dire, à la fin de la phase 3, avec la fin, on va dire, on va mettre Endgame, même s'il y a Far From Home après, il y en avait, comme on le disait, un package incroyable qui resterait pour toujours, quoi qu'il arrive après. Tu vois, c'était un ensemble d'une vingtaine de films qui formaient un tout, un moment dans notre vie qui était... bon, pas parfait, mais qui est quand même parfait parce qu'ils ont réussi un truc fou. Et après, quoi qu'ils fassent, on aurait... Tu vois, ça n'affecterait pas ce qui se passait avant. Et je trouve qu'on est un petit peu dans cette situation où, entre Black Widow, Eternals, Far From Home, et on pourra parler un petit peu de ce qui vient après éventuellement, mais Shang-Chi, il était sympa, je l'ai beaucoup aimé. Mais c'est le seul, et tu vois, dans l'ensemble, on a quand même des films qui sont peut-être sympas, mais pour moi, il y a un danger que ça soit, bon, bah, le MCU, c'était sympa pour, tu vois, jusqu'à Endgame, et puis après, c'est quand même plus la même chose. Et on a un vrai danger, là, de tomber dans un niveau vraiment différent, qui n'arrive pas à reproduire ce qu'ils avaient créé au départ, et peut-être qu'ils redresseront la barre, et on n'est qu'avec une... série de films qui était un petit peu particulier. Il y a plein de pas d'excuses, mais il y a plein de raisons qu'on peut trouver. Ça pourrait changer, rechanger ensuite. Mais là, je commence à me dire, bah peut-être que... tu vois, tous les films du MCU, je les voyais avec ma femme. Là, il y en a plein où je me suis dit, bah non, c'est pas la peine, elle va pas aimer. Les gens normaux, ils vont pas aimer. C'est des trucs pour fans de comics. Et moi, je continuerai à les regarder. Tu vois, je suis un fan de comics et j'aime beaucoup tout ça. Mais c'est vraiment plus la même chose, en tout cas sur cette année, quoi.
Et ta salle, du coup, elle était comment, toi ? C'était plein à craquer
C'était assez plein, mais tu sais, moi, je vis dans un c'est un petit ouais. cinéma de village, quoi. Et donc, elle était assez pleine, ouais, avec beaucoup de très jeunes qui portaient pas de masque. Ouais. Donc, moi, j'ai mis mon FFP2, je l'ai gardé sur le visage.
T'as eu des réactions ? Tu sentais des réactions dans la salle, quand même ?
Ouais, les gens avaient l'air relativement contents. Et franchement, les reviews sont bonnes. Hein. Quand on parle de Tomatometer, alors c'est binaire, mais on est à 95% de qualité sur No Way Home, 99 pour le score de l'audience. Alors si on voit Metacritic qui fait la moyenne, c'est un petit peu différent. Metacritic, on est à 71% quand même. Bon, c'est quand même pas mauvais. Moi, je crois que je le mettrais, si moi je devais le noter un pourcentage, je lui mettrais un 5 sur 10 peut-être. Tu vois, 5...
T'as la sévérité de la notation française, c'est pour ça.
Ouais.
Les 70% aux États-Unis, c'est quasiment la moyenne. Hein, c'est...
Peut-être. Non, mais tu vois, je pense qu'il ne vaut pas 70%, même selon la notation anglaise, mais... enfin américaine, mais ça, c'est mon point de vue. Est-ce que tu veux tenter de le noter, toi ?
Non, je vais pas faire ça.
D'accord, très bien.
Non, mais du coup, moi aussi, j'étais du coup dans une toute petite salle de ma petite ville, en fait, parce que je suis pas allé dans la métropole pour aller dans les grands cinémas, donc j'étais dans un tout petit cinéma avec pas beaucoup de monde. Mais par contre, quand même pas mal de frémissements pendant la séance, quoi. Et ça. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien, en fait. Et j'avais ressenti ça pour Black Widow, que j'avais pas beaucoup aimé non plus. Mais ouais, il y a ce groupe de gens qui, eux, sont à fond et vivent le truc et sont réellement touchés par le film. Alors, pour diverses raisons, hein, je juge pas du tout. Et au contraire, je trouve que ça améliore ma séance, quoi, de me dire, tu vois, de voir un peu ce qui fait frémir les gens et de les sentir vraiment fébriles et adorer le truc. Donc voilà, ils ont quand même réussi, on va dire, ce qu'ils ont voulu réussir, clairement, ce qui est la partie qui vient toucher la nostalgie, machin. Mais je pense que qui sont sur le côté, quoi.
Ouais, on va en parler avec les spoilers. Hein, on n'a pas fini et puis on parlera aussi de ce qui peut se passer après pour ce Spider-Man. Et dans le contexte justement de Sony et pas Microsoft, mais Marvel. Donc, on va parler de spoilers à partir de maintenant. Si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez disparaître et revenir ensuite quand vous aurez vu le film. Donc, bip, 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 spoiler. Ah, je ne sais même pas par où commencer. Quand on parle de fanservice... Oui. Alors, si, je sais par où commencer. Mon problème principal, c'est que j'aime pas du tout les Spider-Man précédents. À l'époque où les premiers Sam Raimi sont sortis, je les avais aimés parce qu'on n'avait jamais eu un aussi bon film de super-héros que traité avec autant de sérieux, en fait. Et donc, c'était une évolution énorme pour le genre. Et en tant que fan de Marvel, tu vois, j'étais émerveillé. C'était il y a quoi, 20 ans maintenant ? Les ayant revus depuis, je trouve qu'ils ont très très mal vieilli. Tu vois, je suis pas du tout, moi, nostalgique. J'aime pas, au contraire, je suis anti-nostalgique, c'est-à-dire que je trouve qu'il y a énormément de gens qui apprécient des choses, pas pour leur valeur intrinsèque, mais pour la nostalgie qui est associée à la chose en question pour eux. Et c'est pas un truc que je critique pour eux, hein. Comme tu le disais, si les gens aiment un truc, super, tant mieux pour eux. Mais pour moi, les films de Raimi sont vraiment juste mauvais. Et je suis vraiment seul, je me sens très très seul dans cette opinion, parce qu'il y a plein de gens qui les adorent. Mais d'une part, les films, enfin, ils ne sont pas tous vraiment mauvais, mais ils sont mauvais. Ils sont juste, je les ai revus il y a quelques années et j'étais en cringe permanent. Le pire, c'est Willem Dafoe, que tout le monde adore, et je comprends pas. Il est caricatural, il est ridicule, il fait son gobelin, son Green Goblin avec son... tu vois, c'est un méchant de dessin animé, mais pire que de dessin animé. J'aurais dû dire ça dans la partie sans spoiler. j'ai l'impression que le film, c'est un truc qui a été écrit, et je veux pas que ça soit mal pris, c'est pas une critique des gens, mais c'est un truc qui est écrit pour les enfants de 10 ans. C'est vraiment genre, ah mais là, on aurait fait un truc où tu rajoutes tel personnage et là il vient, et là en plus, il dit un truc et là tu t'en souviens parce qu'il l'a dit dans le film d'avant, et là c'est trop trop cool parce qu'ils sont tous les trois ensemble et tu fais comme dans le même où Spider-Man, ils se pointent l'un vers l'autre, et puis ils sont trop trop cool. Et les films Spider-Man, bon, les films de, il y a des gens qui aiment ceux de Garfield, je pense que généralement, ils sont moins appréciés que ceux de Rémi. Que ceux de Tobey Maguire. Mais moi, je me sens très, très seul parce que je déteste Willem Dafoe et j'aime la scène où Tobey Maguire se met à... Il pense qu'il est cool et donc, tu sais, dans le troisième, et il se met à danser dans la rue et machin parce que moi, ce que j'aime dans ça, c'est que c'est pas qu'il devient vraiment cool, c'est qu'il est cool... Selon le nerd qu'il est, lui, il est un nerd total, il n'a pas eu la moindre idée de ce qui est cool, mais il change complètement de personnalité, et ça ne veut pas dire qu'il devient vraiment cool. Il est ridicule, il est... Tu vois, et dans le... C'est la seule scène que je trouve... Enfin, pas la seule scène, mais moi, je l'aime bien, et tout le monde la déteste. Et tout le monde aime Willem Dafoe, je le trouve ridicule. Et tous les méchants sont ineptes, même Doc Ock. Dans le, c'est le 2 ou le 3, je ne sais plus. Même Docteur Octopus, dans le deuxième, il n'est pas trop mal, Molina, il n'est pas trop mal, mais il est théâtral, comme on faisait les films il y a 50 ans, quoi, ou comme on les fait encore en France. Tu vois, c'est... Bref. Et ouais. Cet aspect, forcément, ça me ruine ce film-là, parce qu'ils l'ont ils ont ramené tous les personnages et tous les acteurs exactement... comme ils étaient dans leurs films à l'époque. Exactement, il n'y a aucune interprétation, aucune... Et c'est peut-être, tu vois, un point positif, parce qu'ils ont respecté ce qui s'était fait avant, de la même manière qu'ils ont respecté Thor 2, ou tu vois, dans Endgame, et ils ont envoyé des petits hat tips à ces trucs-là. Mais... Et donc, d'une certaine manière, je me dis, ouais, ok, ils l'ont fait comme c'était, ils n'ont pas cherché à corriger le passé. Mais cet aspect, et je vais parler de beaucoup d'autres problèmes que j'ai avec le film, mais cet aspect, je pense, est déterminant, parce que là où une immense partie du public voit les acteurs et les personnages et se disent « Oh, mais c'est trop cool, ils étaient comme ils étaient, tu vois, c'est ceux qu'on a aimés quand on était plus jeune il y a 20 ans », moi, je les vois et je me dis « Mais oh là là, mais non, pas eux, pas comme ça, tu vois, c'est... » Le MCU était bien parce qu'il a dépassé cette étape, justement. Le MCU, c'était pas des acteurs caricaturaux, des méchants de dessins animés, de la réalisation... c'est caricatural, c'est exagéré, c'est... Donc bref, je m'arrête de parler, vous avez compris ce que je voulais dire.
Moi, je veux revenir sur les films de Rémi. Déjà, moi, j'étais beaucoup plus jeune que toi à l'époque, hein. Je devais avoir, je sais pas, 14, 15 ans, un truc comme ça. Et c'est des films super importants pour moi. En tout cas le premier, parce que du coup j'ai pas eu accès aux comics, ou donc j'avais vaguement vu la série Spider-Man des années 90, le dessin animé, et c'était tout. Donc vraiment, tu vois, c'est un peu la découverte du personnage pour moi, ce premier film là à l'époque, et en plus du coup et c'est là où je suis content finalement de l'avoir vu en VF récemment, c'est que du coup moi ces films là les trois Rémi, je les ai vus en français, je les ai jamais vus en VO, je les ai toujours vus en doublage, et du coup bah ça a un peu le fait de les réentendre, en fait, de réentendre ces acteurs et notamment Willem Dafoe dans ce même rôle là etc, ça a fait que ça a bien marché en fait sur moi. Pour revenir sur la qualité des films même de Rémi, alors je suis un peu c'est un peu difficile de les juger comme ça, parce que effectivement t'as raison, hein, de dire que ils ont un côté un petit peu grandiloquent, dessin animé etc, mais je pense que c'était fait exprès, hein, parce que du coup c'était encore une période où on cherchait comment adapter les comics, et du coup il y a un espèce d'entre-deux entre le dessin animé et le film live, on sait pas encore trop à qui on s'adresse, mais en même temps on a un budget tellement énorme qu'il faut quand même assurer son coût et assurer qu'il y a un public, etc. Donc, je comprends complètement pourquoi et comment se filmer comme ça, et ça me gêne pas trop. C'est difficile à regarder aujourd'hui, surtout.
Ah, au moins, on est d'accord sur ce point.
Ouais, tout à fait. Mais je trouve que ça reste des films intéressants à voir. Je les ai revus il y a quelques années maintenant, mais je trouve que ça reste des films intéressants à voir. Pour plein de raisons, que ce soit pour le contexte, voilà, pour l'histoire, on va dire, du cinéma et des comics au cinéma. Et alors que du coup, et c'est là où ça devient compliqué, c'est que côté Amazing Spider-Man, donc avec Andrew Garfield, là par contre, c'est vraiment très compliqué parce que je crois que le MCU avait déjà commencé. Je suis pas sûr, mais je crois bien. Et c'est pas bien du tout, quoi. C'est vraiment pas bien. Alors, et du coup, il y a. Voilà,
tu sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup le Spider-Man de Garfield.
Ouais, je sais. Mais en fait, il y a des choses bien. Alors, déjà, il y a certains acteurs qui sont vraiment très bien. Il y a des scènes un peu mémorables. Hein. Il y a la fameuse scène où Gwen Stacy tombe et où Andrew essaie de la récupérer en slow motion avec la toile qui part de son bras. Enfin, il y a des choses quand même. Enfin. J'en fais partie, quoi, qui ont marqué les gens, quoi. Et il y a matière à rappeler ça et à aussi donner des nouvelles de ces personnages-là. Et ça c'est un des choses que j'ai bien aimé au final dans ce No Way Home-là, c'est d'avoir aussi un peu le au revoir à ces persos et un peu une conclusion à leurs arcs, parce que chacun des deux séries, donc que ce soit celle de Tobey Maguire et celle d'Andrew Garfield, devait avoir des suites. Hein. Il y avait des choses en préparation pour continuer leurs histoires, mais ça s'est arrêté. Bon, voilà, ça c'est la vie du cinéma, hein, ça c'est comme ça. Mais du coup, il y avait, pour ceux qui attendaient un Spider-Man 4 de Sam Raimi, pour ceux qui attendaient un Amazing 3 de Sam Raimi, il y a quelque part, tu sais, tu vois, ça y est, quoi. On a un peu la résolution de leurs arcs respectifs. Et le film prend assez de temps quand même à faire ça. Mais malheureusement, c'est complètement sclérosé par des blagues autour du fait qu'ils viennent des univers différents, incessantes, super lourdingues, parfois super cringe. Tu sais, il y a cette scène où Ned, il appelle Peter Parker et les trois, ils font quoi ? Non, Peter. Peter, Parker, tu vois, enfin, toutes les blagues sont trop longues, en fait. Toutes les blagues sont parfois drôles à la première seconde, mais il la continue sur 10 secondes derrière et ça, ça rend un espèce de... Ah, c'était indigeste, quoi. Sur plein de blagues, c'était ça, et il y a plein de moments un peu dramatiques qui sont désamorcés par des blagues un peu lourdes comme ça. Et je trouve que ça gâche un petit peu ce côté, ce côté où on les retrouve. Tu sais, il y a une dynamique qui fait faux, en fait. Il y a un côté vraiment factice là-dedans où, tu vois, j'ai pas l'impression que trois Spider-Man qui se rencontrent, ils réagissent vraiment comme ça, quoi.
Ouais.
Il y a un côté sketch de SNL où, tu sais, Funny or Die, qui sont des émissions où ils font venir les acteurs et parfois les acteurs viennent rejouer des personnages de films pour faire des sketchs humoristiques. Ça aurait très bien pu être un sketch où on fait venir les trois Spider-Man et on les fait discuter. Ah ouais, t'as ton truc qui sort du bras, ah, c'est dégueulasse, tu vois. Enfin, c'était un peu bizarre et j'ai encore du mal à comprendre, en fait, pourquoi ils ont gardé, on va dire, des trucs aussi longs, parce que le film est long. Et puis au final, l'intrigue en elle-même, elle va vers quelque chose qui est une non-fin, quoi. Enfin, je m'attendais à une vraie conclusion, on va dire, autour de Tom Holland, mais il y a plus vraiment le temps pour Tom Holland, en fait. Et ça finit. Je trouve pas ça très satisfaisant, quoi. Comme ouais. Il est toujours dans la MCU.
Avant de parler de la fin,
ils ont voulu aller, quoi.
Ouais, avant de parler de la fin, parce que ça, je pense que ça nécessite un chapitre à elle tout seul. Effectivement, Amazing Spider-Man, c'était 2012 et 2014, donc on était bien dans le MCU. Hein. On rappelle que Avengers, c'est 2012, donc Amazing Spider-Man est sorti après Avengers ou dans la même année. Mais au-delà de ça, tu parles d'une question de temps et de structure. Moi, je trouve que le vrai plus gros problème du film, au-delà de mon amour ou désamour pour les personnages et les acteurs, c'est que la structure fonctionne pas. La structure fonctionne pas du tout, et même l'écriture, le scénario est bancal. Et comme je disais, il y a toujours un minimum de suspension of disbelief, il faut accepter que c'est certains trucs de super-héros, toujours. Mais là, ça va tellement loin que ça tient pas, quoi. Alors, d'une part, il y a le problème de... Ils ont un petit peu essayé de faire deux films en un. C'est-à-dire que, comme on en parlait quand on parlait de nos attentes, la fin du précédent, ça... C'est un setup pour des trucs hyper importants, des trucs qui sont à explorer, même pas juste sur un film, mais sur une trilogie entière, tu vois. Le fait que le monde connaisse l'identité de Spider-Man, c'est un truc qui est impossible à résumer en une demi-heure. Et non seulement ils ont essayé de le résumer en une demi-heure pour passer ensuite à ce qu'il fallait faire de plus important pour gérer les problèmes entre Sony et Marvel... Mais en plus, je trouve que pendant cette demi-heure, c'est pas très bien fait. On a quelque chose d'extrêmement caricatural qui aurait pu fonctionner si ça avait été, s'ils avaient pris un petit peu plus de temps ou s'ils l'avaient fait différemment. Mais le fait que le monde se divise entre ceux qui détestent Spider-Man et ceux qui adorent Spider-Man... et qui vont aller le harceler devant chez lui avec plein de d'hélicoptères et à son école et machin. Enfin, en isolation, ça tu pourrais dire oui, bon, ok, peut-être, mais c'est tellement fort, tellement vite. Enfin, tu vois, Steve Rogers, il courait dans le parc de Washington et personne l'emmerdait. Un acteur peut aller prendre peut aller déjeuner dans un resto. Il y aura peut-être quelques paparazzi, mais et ok, peut-être que c'est juste la semaine où c'est révélé, donc c'est hyper important. Mais le FBI va venir le chercher, l'emmerder juste pour le principe et prendre ses amis. Enfin, tu vois, à un moment, ça fait trop, quoi. Et bon, là encore, ça pourrait passer à la limite, mais ensuite, il va voir Doctor Strange. Ok, pourquoi pas? Et ils se disent qu'ils vont faire ce sort, ce sortilège super méga important. Et ils prennent pas le temps de dire... Lui, il y pense même pas à dire « Attends, mais alors il faudrait que tout le monde oublie. » Sauf quand même Ned et MJ et Aunt May. Et voilà, il dit ok, on va le faire comme ça. Ça prend exactement 10 secondes, même s'il met 5 secondes à se souvenir du nom de sa tante, comme moi. Et tout est réglé. Tout va bien.
Tout va bien, oui.
Et c'est juste, tu vois, ce genre de truc, ça n'a... Après...
Je veux juste, avant qu'on poursuive, sur la suite du scénario, tu parlais rapidement de justement l'intérêt d'avoir un Spider-Man, on révèle son identité, ce qu'il déteste, ce qu'il aime. Il y a toute une thématique qui était les bras tendus pour ça, justement avec le fait que Mysterio ait truqué des choses sur les fake news. On a JJJ qui est en parodie de, alors je ne sais plus comment il s'appelle, Infowar, là, de... il y a tout un truc super important avec à jouer ici avec les fake news, avec les gens qui mordent à ce genre de type de news, etc. Et c'est complètement évacué, quoi. On restera sur un Mysterio, c'est le vrai héros, et Spider-Man, tu vois, et c'est tout. Et puis après, ça sera balayé par le scénario de toute façon. Moi, je te laisse poursuivre, sur.
Ouais. Non, mais tu sais, en plus, même dans les comics, c'est un thème hyper important. Il est toujours tiraillé entre son identité et le fait qu'il mette les gens en danger. Alors ça, c'est un petit peu plus exploré ensuite, mais traité avec tellement de paresse et tellement de hâte que, bon... Ensuite, sur le scénario, pourquoi est-ce que ça a amené les méchants qui savent qu'il est Spider-Man? Bon, ok, à la limite, c'est la règle, on peut l'accepter. Mais du coup, ils sont tirés de leur réalité avant de mourir, juste avant de mourir. Est-ce qu'ils connaissent tous l'identité de Spider-Man? Je suis pas convaincu. Tous
Alors, le seul qui ne connaît pas l'identité de Spider-Man, alors, à ma connaissance, mais je me trompe peut-être parce que je n'ai pas vu le film, c'est celui de la scène post-générique, donc c'est Venom.
Ouais, c'était mon ace in the hole, j'allais te dire, bah non, Venom, il n'y a aucune raison.
Mais...
aucune raison. Il ne sait même pas que ça existe, Spider-Man. Ouais. Et donc, rien que ça, tu vois, ça brise un petit peu le truc. Mais bon, ok, peut-être que tous les autres le savent, mais... ils sont ramenés, ok, très bien. Et puis, au final, quand il prend la décision de faire oublier à tout le monde que Peter Parker existe, je comprends pas non plus. Tu vois, il fait oublier qui est... En fait, c'est peut-être mal présenté dans le film où je l'ai mal compris. En fait, c'était le sort d'origine. C'est-à-dire que tout le monde oublie qui est Spider-Man. Mais en fait, non, pas vraiment, parce que... Happy, il le connaît plus. C'est même pas qu'ils savent pas que lui est Spider-Man. C'est que Spider-Man a été effacé. Enfin, pardon, Peter Parker a un peu été effacé de la réalité. Pas vraiment parce qu'il est encore là, mais personne sait qu'il existe. Genre Aunt May, pourquoi il y a dans sa maison, dans son appartement. Bon, elle est morte, ok, mais pourquoi est-ce qu'il y a une chambre d'un adolescent? On sait pas.
Je peux t'expliquer le truc de fin, c'est que du coup, le premier sort, il a foiré. Tous ceux qui connaissent Spider-Man essayent de rentrer. Et du coup, on fait oublier Spider-Man à tout le monde. Donc, across the multiverse. Et du coup, bah, plus personne
n'entre.
En gros, c'est
Ah, mais pas du tout.
C'est ça l'idée.
Mais non, tout le monde sait qui est Spider-Man. Ils parlent encore de Spider-Man à la fin. Ils disent...
Il n'y a plus de Peter Parker, en fait. Et c'est ceux qui savent que Peter Parker est Spider-Man qui essaient de rentrer, en fait.
Oui, tout à fait.
C'est ça le point. Mais effectivement, du coup, il disparaît, on va dire, des souvenirs. Mais oui, tu as complètement raison. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais ça, à la limite, c'est pas trop gênant parce que... tu vois, tu pourrais toujours trouver un câble,
peut-être.
Tu parlais de la chambre, machin, mais bon, ça, c'est pas très grave, quoi. On va dire,
bon, d'accord.
Au regard
c'est,
je du
pinaille.
Reste...
J'avoue que je pinaille, et peut-être que tu dis, alors, il l'explique pas, mais peut-être que tu dis, ok, le premier sort a merdé, donc ils peuvent plus juste faire oublier que Peter Parker est Spider-Man, donc ils doivent aller un cran au-dessus et carrément faire oublier que Peter Parker existe. Mais bon, ok. Admettons. C'est pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'effectivement, ils mettent ces deux histoires dans le même film. Et même avec le film très long, je trouve qu'il n'y a pas assez de temps ni pour l'une ni pour l'autre. Et du coup, les deux tiers du film, c'est juste du fanservice qui n'a que très peu d'intérêt au-delà de regardez, on va vous mettre. Electro, regardez, on va vous mettre le lézard. Il y a trop de personnages, aucun n'est intéressant.
J'ai envie de le dire, mais ils ont même mis Daredevil, du coup.
Ouais, alors ça m'a pas gêné. tu vois, le seul.
Mais
tu vois,
gênant, mais bon.
C'est encore du fanservice, le moment où il attrape la brique qui est lancée par le truc. C'était pas nécessaire. Et tout le monde fait ah bon, ok, ce mec qui est aveugle, il a attrapé la brique. Ah, mais comment t'as fait ça? Ah, mais je suis un très bon avocat.
Je suis un super bon avocat.
Ok, d'accord. Mais c'était pas nécessaire. C'est juste pour dire, tu vois, c'est pour dire oh, regardez, c'est Daredevil et il peut tout attraper quand on lance des trucs. Vous savez, c'est comme dans les comics, c'est comme dans la série que vous avez vue. Fan service. Mais ils auraient juste pu mettre Matt Murdock en tant qu'avocat et ça aurait fait le même effet, tu vois. Et tout est comme ça, tout est comme ça.
Alors,
je
sais pas s'ils ont eu besoin. Alors, ça c'est une question que je me suis posée justement. C'est est-ce qu'ils lui font attraper cette brique, qu'on comprenne que c'est quelqu'un de spécial pour les gens qui justement, comme ils font ça de temps en temps, enfin même régulièrement, pour les gens qui connaissent pas bien le MCU, qui ont vu peut-être deux autres films, qui connaissent pas Daredevil. Tu vois, ça fait partie peut-être des remises en contexte, parce que du coup, ceux qui savent, ils sont contents, ils ont déjà fait « wouh » dans la salle, dans la salle de cinéma, mais les autres, ils comprennent pas pourquoi, tu vois, ils peuvent ne pas comprendre ce qui...
Ouais, mais tu t'en fous.
Pourquoi les gens sont contents.
Parce que le fanservice, il est déjà là, parce que tu sais que c'est Daredevil. Et si tu veux réintroduire le personnage dans le MCU ou lui donner sa série sur Disney+, bah, tu le présenteras, tu n'as pas besoin de faire ça à ce moment, tu vois.
Ah oui, je suis d'accord. Mmh. Mais je pense que la volonté, c'est justement de dire, regardez les gens, il faut dire vous, là, allez-y. Il y a un peu ce côté-là.
À la limite, peut-être que c'est pour que les gens qui ont vu le film et qui ne connaissent pas Daredevil, effectivement, se disent, ah mais lui, attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et le jour où on présente la série Daredevil, ils vont se dire, ah ouais, je m'en souviens de ce film-là, et donc je vais aller regarder la série. Et peut-être qu'on s'en souviendrait pas s'il avait pas attrapé la brique. Mmh. Ouais, peut-être. Mais il n'empêche que dans le contexte du film, moi, je trouve ça inutile. Et au contraire, et tu vois, Doctor Strange, c'est quand même... Bon, il est plus le Sorcerer Supreme parce qu'il était plus là pendant 5 ans. C'est marrant.
Ça m'a vraiment fait rire.
Ouais, ça, j'ai trouvé que c'était parce que j'y ai pas du tout pensé. Tu vois, j'ai vraiment... Et effectivement, du coup, c'est bon.
Il était pas là.
Exactement. Ok, très bien. Pourquoi pas. Mais, et c'était même marrant. C'était très bien. Mais il est quand même particulièrement maladroit, ce Docteur Strange. Et puis, il se fait enfermer dans la dimension miroir par Spider-Man, parce que Spider-Man est bon en maths. Alors, tu vois, tous ces trucs, c'est des trucs qui pourraient complètement passer si c'était mieux fait et mieux amené. Et c'est ça qui me frustre, c'est que dans le MCU, généralement, la plupart des choses sont bien faites et bien amenées de manière à ce que ça soit crédible. Là, rien n'est crédible. Rien ne fonctionne. Je te laisse parler.
De toute façon, je pense que là, on commence à avoir fait un peu le tour, on va dire, de notre déception. J'aimerais quand même peut-être redonner un peu un message d'espoir et parler un peu des
points positifs. Il y en a quand même.
Ouais, il y a des choses que j'aime bien dans ce film. Je trouve qu'il y a certaines blagues. J'ai quand même rigolé à gorge déployée à plusieurs reprises. Hein. Mmh. Je pense notamment au coup du sorcier suprême, mais aussi au moment où Spider-Man est éjecté de son corps et où son corps continue à avoir les réflexes physiques d'araignée et qui du coup arrive à empêcher que Doctor Strange
récupère ça, tu penses
la boîte. Ouais, c'est ça, c'est ses réflexes de sa mutation, quoi.
D'accord.
Donc, tu vois, il y a des choses comme ça, moi, qui ont un peu tout le long du film, en fait, qui ont fait que pendant la séance et en sortant, j'étais pas catastrophé, quoi. J'étais c'est pas terrible, mais voilà, il y a des choses un peu marrantes, des choses qui se passent. On n'a pas trop dit, mais c'est vrai que les scènes d'action, malheureusement, elles sont c'est tout du fond vert et c'est des films d'animation, quoi, en fait, hein, parce que tout le monde est en image de synthèse et ça se voit tout le temps. Hein, mais
ça passe, mais c'est pas waouh.
Ouais, c'est ça. Alors c'est quand même impressionnant quand tu arrives dans la dimension miroir. C'est quand même joli. Enfin, c'est
c'est pas la scène de Doctor Strange, quoi. La scène de Doctor Strange dans la dimension miroir, elle est waouh. Là, c'est juste il fait des trucs bizarres avec la géométrie de la réalité. Ok, d'accord.
Et un autre aspect que j'ai beaucoup apprécié, et alors bizarrement, je m'y attendais pas, mais cette volonté de Peter à vouloir soigner ces gens-là avant de les renvoyer chez eux. J'ai trouvé ça très Spider-Man, en fait. Je trouve ça très bien, en fait, que... parce qu'effectivement, hein, il aurait pu régler le problème très rapidement. Il aurait, tu vois, Spider-Man, il aurait pu, en plus, c'est un enfant, dire, j'ai merdé, ok, on a récupéré les méchants, on laisse Doctor Strange résoudre mon problème, quoi. Enfin, résoudre ma connerie que j'ai faite. Tu vois, cette réaction de dire, non, attends, on va pas aller rentrer chez eux, ils vont mourir, etc., j'ai trouvé ça bien, quoi. En fait, j'ai trouvé ça bien. La motivation du personnage à vouloir les soigner, etc., j'ai trouvé ça super bien aussi. Ça, c'est un truc qui m'a surpris, en fait. Parce que du coup, on savait tous que ces méchants allaient être là, et je savais pas trop comment est-ce qu'ils allaient traiter ça, comment est-ce qu'ils allaient résoudre, en fait, le problème. Cette volonté jusqu'au boutisme à vouloir les soigner, j'ai trouvé ça génial, mais malheureusement. C'est la réalisation qui... C'est comme ce que tu disais tout à l'heure. Si c'était bien fait, ça aurait pu être très bien. Et en fait, ça tombe à plat, quoi. Pour donner cette motivation à Peter, on le fait passer par sa tante May, puisqu'il du coup, il a plus son oncle Ben pour lui dire « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. » Donc, ils le font dire par tante May. Mais cette scène n'a aucune saveur, quoi. Je sais pas toi, moi, j'ai rien ressenti du tout, quoi. C'est une phrase qui est super importante dans la mythologie de Spider-Man. Et tu vois, je sais pas ce qui
mais
manquait.
Mais j'irais même plus loin, moi. Le fait qu'elles le disent, alors que justement, dans le MCU, ils avaient évité cet écueil avec la première scène dans Civil War, où on le voit, et où il dit... il le dit d'une manière différente. Et il dit, « When you can do the things I can... But you don't, then when the bad things happen, it's your fault or it's on you. » Tu vois, quand tu peux faire ce que je peux et que tu le fais pas, et ben c'est du coup, quand des choses terribles se passent, ben c'est un petit peu de ta faute. Ce que ça veut dire, c'est « With great power comes great... » C'est exactement ça. Et du coup, là, le fait qu'ils le redisent... tu vois, dans le MCU, généralement, ils arrivent à éviter ces écueils et ça aurait été tellement cringe s'ils l'avaient redit dans le premier film. C'est genre, ah, ok, c'est... Et là, ils le redisent.
C'est la phrase.
C'est la... Ouais, c'est... mais ils le redisent sans le poids, je trouve, parce que c'est uniquement... D'une part, la scène, je trouve, effectivement, tombe un peu à plat. Bon, quand elle meurt, j'avais quand même un petit peu, tu vois, c'est le bonbon industriel, comme tu disais. Mais la seule raison pour laquelle elle le dit... C'est pour que ensuite, quand ils sont sur la statue de la liberté et que quelqu'un dit « Ah, with great power
oui, »,
et tu vois, c'est le seul, c'est un outil narratif complètement artificiel qui n'a pas de poids émotionnel. Et donc, je trouve que c'était un exemple excellent de tout ce dont je parle pour le film, quoi. Ouais, bon, on peut parler un peu de la fin, il y aurait beaucoup de choses à dire encore, mais il y a cet aspect donc qui est quand même... Je pense que c'est le truc le plus MCU, c'est tout le problème de comment dire personnel de Peter Parker qui est cette tension entre je suis Spider-Man et ça fait du mal aux gens que j'aime s'ils sont associés à moi. Et c'est un petit peu la ligne sur tout le film. Et la conclusion est une conclusion, comment dire, la réalisation ultime de cette problématique avec, donc, il abandonne vraiment sa vie personnelle pour ne pas mettre les gens en danger pendant qu'il est le super-héros qu'il est. Et il y a deux éléments. D'une part, les conséquences sur Peter Parker dans le monde. Et puis ensuite, les conséquences sur le MCU et les films Sony. Mmh. J'ai trouvé que la scène à la fin était plutôt bien faite quand il va voir MJ. Je trouve que c'était bien fait parce que tu sens que ça pourrait marcher. Tu sens que si il disait, tu vois, peut-être même pas, on se connaissait d'avant et il s'est passé des trucs, machin, mais s'il essayait de reconnecter avec MJ, tu sens qu'il y a une alchimie entre eux et que ça pourrait fonctionner, tu vois. Et donc, c'est pas qu'il l'a oublié et donc c'était inévitable dans l'urgence, c'est qu'il fait vraiment le choix de la protéger, de protéger Ned Enfin, il y a un coût personnel pour lui, c'est lui qui prend sur lui. Et ça, c'est effectivement aussi très Spider-Man. Donc ça, j'ai trouvé que ça fonctionnait. C'est l'un des éléments du film. Encore une fois, c'est pas le pire film de l'histoire pour moi, mais c'est l'un des éléments du film qui fonctionne. Je te laisse dire ce que t'en as pensé, et puis
cette fin, alors du coup... Ça... Il y a un petit côté un petit peu frustrant de retour à la case départ, quoi. C'est-à-dire que
ouais, je suis d'accord.
Ça finit, il prend son appart, il y a son proprio qui lui dit qu'il faut payer le loyer. On se retrouve, tu vois, à nouveau dans le schéma, on va dire, classique Peter Parker. Il va probablement faire des photos pour payer son loyer. Enfin, là, tu t'imagines facilement, on va dire, la suite, quoi. Et il y a un petit goût un peu frustrant, quoi. J'avoue que je tenais particulièrement à ce que finalement on profite du multivers là et d'ouvrir des portails pour que Tom Holland se retrouve coincé chez Sony. Tu vois, à la fin, il est obligé de prendre un portail pour résoudre le truc, admettons, et qu'il se retrouve ailleurs, quoi. Parce que là maintenant, ce qui va se passer, c'est que bon, on a cette situation de ce nouveau Spider-Man, parce que du coup, c'est quasiment un nouveau Spider-Man hein, qui va être à New York. Personne ne sait que c'est Peter Parker. Personne dans le MCU ne le connaît personnellement.
Je te corrige. Ouais. Spider-Man lui-même n'a pas disparu du MCU du tout.
Bien sûr.
Donc
tout ce qu'il
a fait jusqu'à maintenant est canon dans le MCU. Donc il a combattu Thanos, il s'est battu dans Civil War. Enfin, tout ça, oui, c'est encore là.
C'est ça. Donc, tout le monde sait qu'il y a un Spider-Man, hein, et effectivement, il a fait partie des Avengers, etc. C'est juste que, voilà, il n'y a plus d'attachement à cette personnalité-là. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, on ne sait pas si on reverra Tom Holland dans l'MCU. Parce que du coup, quand tu lis un petit peu ce qu'il raconte...
Alors, si, on sait. De ce qu'on a compris, il y a... Alors, on sait, on se rumeurifie, mais... C'était, comme on le disait la dernière fois, je crois, je ne sais plus qui c'était, mais il disait que...
C'est Amy Pascal.
Amy Pascal, voilà. Qui disait Tom Holland est notre Spider-Man dans le MCU. Et alors ça, ça pourrait vouloir dire il est notre Spider-Man dans le MCU pour tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais il semblerait que Tom Holland ait signé pour 3 Spider-Man supplémentaires. Ouais. Et du coup... Il a signé avec Sony, mais étant donné qu'il est encore dans le MCU, tu pourrais dire, ok, c'est un autre Tom Holland Spider-Man dans un autre multivers qui est uniquement Sony et qui n'est pas celui du MCU, mais vraiment, ça serait bizarre. Je crois que
Là où moi, j'ai quand même de gros doutes, c'est que du coup, Amy Pascal, exactement ce qu'elle a dit, c'est, elle a dit, voilà, on va faire, il y aura encore du Spider-Man, Tom Holland, c'est notre Spider-Man, on va faire une trilogie, etc. Suite à ça, il y a eu toutes les news que t'as dû voir passer sur le sujet. Juste avant, Tom Holland disait non, mais moi je pense qu'il faut que je passe à autre chose. Si je fais encore Spider-Man à 30 ans, je pense que ce sera un mauvais signe, machin. Et de l'autre côté, quand on est revenu la voir sur le tapis rouge de No Way Home, Amy Pascal, pour lui redemander, elle a un peu botté en touche. Elle a dit non, mais vous savez, moi je suis une vraie productrice, je suis obligée d'avoir un mindset positif sur les projets, pour moi ils vont tous arriver au bout. Enfin, tu vois. Je sais pas du tout où est-ce qu'il y a. En même temps, chacun a ses déclarations publiques pour aussi peser dans le.
Bien sûr, dans les négociations.
Amy Pascal, ce qu'elle veut, c'est qu'elle veut que tous les fans fassent ouais, il y a une nouvelle trilogie, etc., pour que Marvel ait la pression et se disent bon, ok, on va donner un peu plus de choses à Sony pour qu'ils acceptent. Enfin, tu vois, c'est. Il y a un jeu en fait qui est en train de se jouer. On ne sait pas du tout en fait ce qui va se passer. Pour le moment, moi, je préfère partir du principe que ça va être un personnage de caméo, c'est-à-dire qu'on va le faire revenir pour je sais pas Secret War ou ce genre de choses-là, mais que j'ai du mal à. Enfin, bon, pourquoi pas hein.
Bah, c'est disons vrai que si Tom Holland joue Spider-Man encore. J'ai du mal à imaginer comment ça serait pas le Spider-Man du MCU. C'est possible, bien sûr, tout est possible avec le multivers, mais c'est compliqué, quoi.
Parce que tu vois, maintenant, ce que peut faire Sony, c'est faire un event multivers dans leur univers à eux, qui fasse venir Tom Holland dans leur univers, tu vois.
C'est possible,
Et ça serait Spider-Man, le Spider-Man du MCU, tu vois.
Oui, mais ils auraient pu le faire à la fin de celui-là. Alors, c'est vrai que c'est habilement fait parce que toutes les possibilités restent possibles, toutes les portes restent ouvertes. Ils réussissent à garder Tom Holland, Spider-Man, dans le MCU, mais en l'ayant effacé un petit peu quand même. Et donc, ce qu'ils veulent décider, et j'imagine, tu vois, c'est pour ça que je dis... c'est vraiment un film qui est fait pour s'adapter aux besoins des deux sociétés. Parce que là, d'une part, je suis complètement d'accord avec toi qu'il y a un sentiment de... Ah mais alors tout ça pour ça, quoi. La raison pour laquelle on aime le Spider-Man du MCU, c'est pour tout ce qu'il a fait dans le MCU. Et là, on a tout effacé. Et donc, c'est vraiment frustrant pour moi aussi. Et je me dis, bah, si c'est pour voir Spider-Man, il fait même son costume traditionnel de Spider-Man de l'origine... Et si c'est pour revoir celui-là, je suis pas sûr que je serais hyper... Bon, bien sûr, je le regarderai, tu vois, mais je suis pas sûr que je serais hyper motivé. Mais tout est possible. Ils peuvent effectivement le faire venir dans leur Spider-Verse. Ils peuvent le garder dans le MCU. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et on sait pas ce qui va se passer. Il y a des contrats, il y a des négociations. Moi, j'avais l'impression d'avoir lu que Tom Holland avait signé pour 3 Spider-Man supplémentaires, mais ça se trouve, c'est là encore des rumeurs. Et je comprends, Tom Holland, il a peut-être pas envie de faire encore Spider-Man à 30 ans, d'autant plus que là, il commence à avoir... c'est difficile de croire qu'il est encore au lycée. Hein. Au début, ça allait, mais... mais bon, je suis d'accord, c'est... Tout est possible, et c'est un peu frustrant. Et je sais pas. Et tu sais quoi ?
Par contre, du coup, MJNL, je pense pas qu'on les reverra, par contre.
Ah bah si c'est encore le Spider-Man du MCU, on pourrait, hein. Tout est possible. Tout est possible.
Ils peuvent introduire d'autres personnes. De toute façon, ils peuvent. Mais bon, c'est pareil, quoi. Zendaya, je pense qu'elle a aussi une carrière d'actrice qui peut aller au-delà de ce personnage secondaire, tu vois, du MCU, quoi.
Ouais. Donc, c'est sûr. En même temps, Tu sais, il y a un autre élément à prendre en compte. Ça fait tellement d'argent. Tellement d'argent pour tout le monde, y compris les acteurs. Tout le monde a son chiffre, tu vois, à un moment. Et c'est sûr que Sony fait beaucoup d'argent sans Marvel maintenant, parce que leur film... Mais à mon avis, Morbius, ça ne va pas faire d'argent. Ils sont en train de faire un film Kraven. Je pense que ça ne va pas faire beaucoup d'argent. Peut-être que ça fera... Mais ils sont vraiment portés par le Spider-Man du MCU. Et c'est, je pense, pour ça que les gens vont les voir. Peut-être que je me trompe, hein, mais je crois que c'est hyper risqué pour Sony de se dire « Bon, bah voilà, on s'en fout du MCU, maintenant on va tout faire nous-mêmes. » C'est possible, bien sûr, mais il n'y a pas de raison de le faire. Il n'y a pas de raison quand tu peux dire bah, « On peut être associé au MCU et on
combine les... » Moi, je pense qu'ils continueront à tabler sur le Spider-Verse. Hein. Je pense qu'ils vont... Je pense que ce n'est pas la dernière fois qu'on voit Tobey et Andrew avec bien le sûr. Costume.
Mais ça veut pas dire...
Ces méchants, Kraven et tout, ils vont pouvoir faire quelque chose. Après, je sais pas si ça va fonctionner ou pas, mais je pense qu'il y a du potentiel. Tant qu'ils arrivent à maintenir la confusion que tous ces trucs-là, c'est un peu du Spider-Man, etc.
Ouais. Non, mais bien sûr. Mais pourquoi abandonner Tobey Maguire... pardon, pas Tobey, mais Tom Holland, Spider-Man, du MCU? Pourquoi l'abandonner? Moi, je suis... tu vois, en plus, ils ont ce contrat qui spécifie que dans chaque Spider-Man, il doit y avoir un personnage majeur du MCU. C'était Iron Man le premier, Nick Fury le deuxième, et maintenant... et maintenant Doctor Strange. Qui d'ailleurs, entre parenthèses, s'attire pas mal des comics. Hein. Toute cette histoire, c'est assez inspiré de ce qui se passe dans certains comics. Mais bon, donc c'est pas aussi artificiel qu'on pourrait le penser.
Et puis maintenant, on a un symbiote dans le MCU.
Non, bien sûr. Moyen lamentable de l'amener. Il n'y avait pas besoin. Ouais. Tu pouvais amener un symbiote, mais de mille manières. Je comprends pas pourquoi ils l'ont fait comme ça. C'est... Mmh. Enfin bon.
Et puis il n'y a pas de raison qu'il reste un symbiote, puisque du coup, tout le monde est renvoyé, tous les atomes sont envoyés dans leur monde. Il n'y a pas particulièrement de raison pour laquelle il reste une goutte de Venom ici. Mais
ouais,
bon, bref.
C'est fait,
à mon avis, c'est pas fait pour rien, donc bon.
Est-ce que tu veux parler de la deuxième scène, entre guillemets, post-générique?
Ouais, l'énorme teaser pour le Doctor Strange and Multiverse of Madness.
Ouais, qui est un sizzle reel, en fait, qui est même pas un teaser, mais... Enfin, je veux dire, pas une scène.
C'est la première fois qu'ils font ça, hein.
Non, il y avait déjà eu une fois ou deux avant un truc de ce genre. Okay.
Mais du coup, alors là, c'est là où moi j'ai explosé pour le coup. Hein, tout.
Ah oui?
C'est là où. Ah ouais, j'adore où ils vont là. Je suis toujours un peu inquiet parce qu'on a des nouvelles de reshoot super lourds sur le film. J'ai toujours un peu peur voilà, que ça se passe pas très bien sur le niveau production. Mais ah ouais, là par contre, là.
Mais qu'est-ce qui t'a
là,
plu
on
alors
part, quoi. Alors déjà, il y a cette ambiance, il y a une ambiance qui ressort de ce teaser qui me plaît beaucoup. Il y a ce jeu de voilà, on va voir. En plus, il y a Wanda qui revient, et il y a ce Doctor Strange qui revient aussi. Donc alors, on ne sait pas si ça va être le même que celui des What If, mais il y a un Doctor Strange un peu qui semble-t-il commence à accumuler de la puissance. Pour régner sur le multivers ou quelque chose comme ça, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et très hâte de voir un. Alors j'espère que ce sera ça, hein, que ce sera à la fois les méchants et le héros du film. Mais ouais, ça c'est. En plus, c'est vraiment le film que j'attendais là pour le coup. J'étais un peu vendu d'avance et je suis vraiment ravi d'avoir eu ce teaser. J'espère qu'il sera disponible en ligne dans pas trop longtemps parce que je l'ai vu, mais je pense qu'il faut que. Je revois un peu plus en détail. Puis je pense que je me garderai des autres bandes annonces après, mais ouais.
Tu te souviens quand il sort?
En mai, il me semble.
Ouais, loin, moi, je t'avoue que on a pas d'autres films avant Doctor Strange. C'est
non,
le prochain.
Non, on a que des séries. Alors même les séries, je crois qu'elles ont été un peu espacées.
Ouais. D'accord. On pourra en reparler un autre moment, mais écoute. Je vais t'avouer que je pensais pas dire ça un jour, mais là, je commence à en avoir un peu assez du multivers. Je trouve que ça, ils en ont. Tu vois, c'était bien de l'introduire, c'était bien de montrer que ça pouvait avoir telle et telle conséquence, mais là, je trouve que ça commence à faire un petit peu beaucoup, quoi. On en a eu... bon, les What If, ok, c'est des séries animées. On en a eu dans Loki. On en a eu dans... maintenant, une tripotée dans ce... Dans ce Spider-Man. On va encore en avoir une couche dans le Multiverse of Madness. À un moment...
Et dans le Ant-Man qui va arriver aussi.
Quantumania. Ah oui, c'est multivers aussi, ça je savais pas.
En tout cas, le méchant c'est Kang, donc part.
Kang normalement c'est souvent lié au multivers. Normalement c'est juste le futur, mais bon peut-être, on verra. Mais oui, du coup la phase 4, c'est la phase 4 hein, dans laquelle on est. Oui. C'est vraiment la phase multivers et j'espère. Bon, d'une part j'espère que Doctor Strange and the Multiverse of Madness sera bien. J'espère, mais j'espère aussi qu'une fois qu'on aura fini avec ça, et peut-être on va mettre aussi Ant-Man Quantumania dans l'eau, ok, après ça, on se calme. Toutes les productions ne peuvent pas être du multivers, quoi. Ça commence à bien faire. Parce que le problème du multivers, c'est que c'est un petit peu un chèque en blanc. Tout est possible. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et c'est marrant pour un event, c'est marrant pour un temps limité, mais si dans tous les films et toutes les séries, bon je sais que c'est pas toutes les séries, mais si c'est tout le temps, bah tout est possible, ah ouais bah c'est le multivers donc ça va, tu vois ça commence à je sais pas pourquoi, et pourtant je suis fan, hein, je suis hyper client et je suis hyper excité à l'idée de tout ce qu'ils peuvent faire, mais là je trouve que ça commence à suffire et j'espère que une fois tout ça établi, même dans les comics, ils n'utilisent pas tout le temps le multivers. On sait que ça existe, mais il y a un monde au moins, ou peut-être deux mondes en parallèle que tu connais séparément. Et puis, il y a des règles dans ces mondes-là. Et je suis très curieux de savoir comment ils vont gérer les 4 Fantastiques et les X-Men et tout ça. Mais j'espère que la phase 4, c'est la phase multivers, qu'on établit ces règles-là, et qu'après, on revient dans un monde un petit peu plus cohérent, et que ça sera une phase de transition, et que les phases 5, 6, voilà, peut-être qu'on utilisera des events multivers de temps en temps, mais qu'on sera dans l'univers de Marvel, et que les choses sont déjà assez compliquées pour être intéressantes juste avec cet univers-là. Donc, je suis
malheureusement, je pense que ça va se poursuivre au moins jusqu'à Secret War, quoi. Donc,
pas forcément. Secret War, c'est pas.
On a encore du What If qui arrive.
Non, mais Secret War, ça n'a pas forcément à voir avec le multivers.
Je sais pas, je confonds peut-être, mais. C'est le prochain projet des. En tout cas, probablement le prochain projet des frères.
Le Secret War, c'est pas le multivers. Secret War, c'est tous les méchants et tous les gentils qui sont amenés quelque part et qui sont en deux équipes. Généralement, les méchants contre les gentils, et ils doivent se taper sur la gueule. C'était le premier gros crossover.
Quelque part, tu vois, pour moi,
Mais c'est peut-être une dimension parallèle, mais c'est pas qu'il y a plein de versions de chaque personne, tu vois, dans ce sens-là.
À mon avis, ils vont en profiter pour faire venir des trucs alternatifs.
Ah, peut-être. Mais dans tous les cas, je suis... Tu sais, les dimensions de Doctor Strange, c'est des dimensions qui existent dans cet univers. Les dimensions alternatives et les multivers, les autres univers, c'est deux choses différentes. Bref, peu importe. Mais l'impression que ça me laisse, en tout cas, c'est que, tu vois, là, on est dans un moment où... et peut-être qu'à l'avenir, comme je disais tout à l'heure en introduction... la grande période de Marvel, elle est terminée, quoi. On est dans un truc où c'est super fun pour les fans de comics, que nous sommes, donc on va continuer à les regarder, mais c'est plus des trucs que je recommande à ma femme. Encore que, on pourra parler de Hawkeye la semaine prochaine, quand on aura vu le dernier. C'est quand même assez sympa. Mais ouais, pour moi, sur les films on est en train de passer un truc qui est tellement... Je trouve qu'ils n'ont pas réussi la transition. À chaque étape du MCU, c'était incroyable qu'ils réussissent à garder suffisamment de cohérence pour que ça plaise à tout le monde. Là, sur le multivers, ils sont partis tellement...
Tu vois, moi, la phase 2, donc juste après Avengers, j'ai un peu ressenti ça. Et en plus, c'est le moment où on a eu Thor 2 et
le film était mauvais.
Et j'avais cette espèce de Marvel fatigue en me disant, bon, du coup, ils ont fait Avengers et... Et ça y est, c'est nul, quoi, tu vois. Donc, peut-être qu'ils vont réussir à reprendre le truc. Là, la complexité des choses fait qu'il y a énormément de films très différents, de séries très différentes. Ils sont en train un peu d'étaler un petit peu des Lego un peu partout. Alors, il y a le multivers au milieu, etc. Mais on ne sait pas encore comment est-ce qu'ils vont réagencer tout ça pour aller vers vers le nouveau, voilà, une nouvelle phase à venir, quoi. Mais tu vois, et c'est pas fini, quoi. On va avoir encore plein de nouveaux persos, du Blade, du Moon Knight. Enfin, c'est assez incroyable, quand même, la dose qui nous prépare. Et après, une fois qu'on aura tous ces nouveaux jouets, il faudra voir comment est-ce qu'ils veulent les réutiliser, les réinterpréter dans l'univers MCU pour en faire un truc un peu plus global. Pour l'instant, c'est assez artificiel, quoi. Le lien entre les films se fait par des références parfois un petit peu.
Ouais, mais ça me gêne pas. Voilà. Ça me gêne pas forcément, hein, que les trucs soient. Mais je pense que c'est ma vision aussi. Là, c'est une phase de transition, et ils font assez habilement et assez intelligemment. Ils ne tablent pas sur ce qu'ils avaient établi dans les phases précédentes. Donc ça, je pense que tu vois, s'ils nous avaient ressorti immédiatement, voilà le nouvel Iron Man, c'est le fils caché d'Iron Man qui a fabriqué un costume lui-même, tu vois, et puis le sortir Captain America 4 avec Sam Wilson l'année d'après. Là, on est peut-être, alors je sais pas, peut-être qu'il sortira en 2024, tu vois, et on aura le temps de digérer, donc... Je suis d'accord, c'est bien qu'ils repartent, mais je suis un petit peu inquiet. On verra s'ils réussissent en phase 5 et 6 à faire quelque chose qui tient. Je sais pas. Et tu vois, au sortir de la phase 3, je me disais, mais avec les 4 Fantastiques et les X-Men et tout ça, ça va être complètement fou, parce que s'ils peuvent faire le même traitement qu'avant. Et là, je commence à me dire... Ouais, bah peut-être que ça va être traité comme ces films-là sont traités, avec un petit peu plus d'ambiance. Bah, c'est pour les fans de comics, quoi. Peut-être, on verra. Il est tout à fait possible qu'ils réussissent à bien le faire, parce que pour chaque film, et même pour chaque série de cette phase 4, il y a une explication pour expliquer pourquoi c'était un petit peu en dessous. Alors Shang-Chi, on l'a beaucoup aimé. Moi, je trouve que celui-là, il peut tout à fait s'inscrire dans, en fonction de comment ça se passe à l'avenir, dans une qualité tout à fait appréciable. Eternals, bon bah c'était très ambitieux, ça devait établir les bases d'autres choses, ok. Bon, même si je l'ai bien aimé, je conçois que c'était pas au même niveau. Black Widow, bon, c'était un film un petit peu bancal avec un personnage qui a déjà disparu, et puis bon, c'est peut-être un film un peu raté. Celui-là, il y a toutes les contraintes entre les trucs de Sony et les trucs de Marvel, donc et même les séries, tu vois, Captain America and Winter Soldier. C'était des histoires de virus, et donc avec la pandémie, ils ont tout retravaillé. Bon, on verra. Dans l'ensemble, ça reste très sympa, mais c'est pas au niveau de ce qu'on avait vu avant, mais peut-être que ça remontera, je sais pas.
Ouais. Comme dirait MJ, il faut s'attendre à être déçu. C'est le meilleur moyen d'éviter la déception.
Et ça, il y a certainement plein de choses à faire. Hein. J'enterre pas du tout le MCU, mais bon, on verra ce qui nous en sort. Donc au final, un petit peu quand même plus que tiède sur ce Spider-Man No Way Home.
Et en plus, j'y retourne lundi. Hein.
Ah ouais.
D'accord. Ouais, j'accompagne ma femme, et cette fois-ci, ça sera en VO. Donc peut-être que je changerai d'avis, que je trouverai ça extraordinaire.
Tu nous diras vendredi quand on parlera des épisodes 5 et 6 de Hawkeye, donc la semaine prochaine. Ta femme, du coup, t'as pas peur qu'elle soit déçue de ce film-là?
Bah, je l'ai préparé, quoi. Je lui ai dit que bon, bah, c'était pas terrible, etc. Mais c'est Spider-Man, elle va absolument le voir. Et j'aurais été pareil, quoi, même si on m'avait dit. Sûr. Sûr à 100% que c'est pas bien, j'y serais allé, quoi.
Ouais. Bah, ma femme, je lui ai dit, je pense que c'est pas pour toi. Donc, tu vois, elle le verra quand même, mais quand il sortira sur Disney+, dans 3 mois, parce que moi, je vis en Finlande, et donc on a Disney+, les films.
Ah, donc du coup, t'as bientôt Eternal et tout ça qui arrive.
C'est ça, ouais. Donc, elle le verra sûrement à ce moment, mais à mon avis, elle va le regarder en disant, non, c'est que c'est pas bien, que c'est pas bien. Ils sont tellement débiles, ces méchants. Et
du coup, petite question là, parce que ça, ce jour va arriver, Patrick, et ce jour va arriver pour toi et pour moi. On va faire un run de tout le MCU avec nos enfants pour leur faire découvrir ça. Est-ce que tu feras regarder tous les Spider-Man pour qu'ils puissent comprendre les références de Spider-Man?
C'est dur, hein. C'est dur. Disons que un enfant. Je disais tout à l'heure que c'est un film qui est écrit pour les enfants de 10 ans. Que je suis. J'ai une part d'enfants de 10 ans moi aussi. Hein, donc c'est pas une critique. Mais du coup, s'il a 10 ans, je pense qu'il va adorer. C'est pile pour cet âge-là. C'est comme la prélogie de Star Wars. Tu vois, tous ceux qui l'ont vu quand ils avaient 10-12 ans, ils adorent parce que c'est fait pour eux, quoi. Ça a la profondeur d'un ticket de métro, ou c'est écrit sur un ticket de métro et ça a la profondeur d'une feuille de papier, l'épaisseur d'une feuille de papier comme scénario, mais bon. Donc oui, peut-être, mais moi, je les regarderai en faisant comme ma femme quand elle verra No Way Home, tu vois. Bon, bah écoutez, un grand merci d'avoir passé cette heure avec nous. Merci à toi, Johan, d'avoir discuté avec moi, d'avoir partagé ta déception et cette amertume, parce que ce Spider-Man était tellement éclatant sur ses deux premiers films que là, on est forcément déconfit. Mais bon, c'est la vie. Il faut s'attendre au pire pour ne pas être déçu. Et nous sommes quand même optimistes malgré tout. Donc, il faudrait qu'on prenne de la graine de MJ. est-ce que tu veux conclure avec un mot ou nous dire où on peut te retrouver ?
On peut me retrouver sur Twitter, hein, comme d'habitude. Je laisse, et puis, c'est tout. Hein, nulle part ailleurs. Je suis en exclusivité sur Twitter.
Ah, on va voir si ton contrat sera reconduit ou si tu vas faire jouer TikTok contre Twitter pour augmenter ton contrat. On se retrouve du coup dans une semaine pour parler de Hawkeye et de la fin de la série Hawkeye. Et sans spoiler, je pense que ça sera un petit peu plus positif, peut-être, je crois, mais on verra.
C'est bien parti.
Merci à tous et à dans une semaine. Ciao, ciao.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.